Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe.
Bonjour et bienvenue à votre émission favorite, celle qui traite de l'alcoolisme et de la solution pour s'en libérer, une solution proposée par les Alcooliques Anonymes. À chaque semaine, on vous offre la possibilité de discuter, de vous informer sur cette solution. Et cette semaine encore, on va se permettre une nouvelle heure pour approfondir cette solution. Donc, une émission dédiée au mouvement des Alcooliques Anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règles d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Quelle belle promesse, quelle lueur d'espoir, hein, d'enfin vivre heureux sans la béquille ou le support de cette substance euphorique au début, mais très très douloureuse dans les derniers milles, en tout cas pour nous les alcooliques. Comme à chaque semaine, vous le savez, on reçoit un invité. Aujourd'hui, il se prénomme Thomas, il est membre de cette fraternité et il va nous parler de sa vie, des difficultés de son passé, évidemment, et de son expérience actuelle de relèvement. Je suis prêt à le découvrir en même temps que vous. Thomas, je te laisse la parole à toi.
Salut René. Je m'appelle Thomas, je suis un alcoolique. Là, on est au début de l'été 2020, donc au moment où vous écouterez ça, vous les écouterez probablement dans l'avenir. Moi, j'ai pris mon dernier verre le 9 décembre 2011, donc il y a quand même plus de 8 ans. C'est intéressant parce que je pense pas tout le temps à ce dernier verre-là ou à l'alcool ou à la période où je consommais, mais c'est important de me souvenir puis de pas idéaliser cette période-là de ma vie. Fait que avec vous, je vais replonger un peu dans ce que c'était quand je buvais, ce qui est arrivé puis comment c'est aujourd'hui. J'ai arrêté de boire, j'avais 26 ans. J'ai commencé à boire, à l'adolescence, là, comme plusieurs, là, j'avais peut-être 13, 14 ans, plus intensément peut-être à 14 ans. Puis, c'était souvent la fin de semaine, en fait. Que la semaine, j'étais un étudiant très performant à l'école. Puis la fin de semaine, je m'organisais avec des amis pour voler du vin ou trouver une façon d'avoir de la bière ou des choses comme ça. On avait même une petite gang là, qui était axée sur la consommation. Là, on était comme un petit club social de consommation. Puis moi, mon truc, c'était moi qui buvais le plus tout le temps. Là, j'avais j'étais moins porté sur les drogues. J'avais des amis qui étaient plus portés sur les drogues dans notre petit groupe. Puis j'ai consommé pas mal au secondaire. J'ai découvert aussi les raves aussi. Moi, j'étais de cette époque-là. Au début des années 2000, puis éventuellement j'ai fini le secondaire. T'sais, juste vous donner un exemple, à mon bal de finissant, on a fait un après-bal, puis on était plusieurs centaines dans un champ à l'extérieur de Montréal, puis il y avait plein de drogues, plein d'alcool et tout, t'sais. Puis les ambulanciers se sont présentés pour une seule personne qui avait perdu conscience, puis c'était moi, t'sais. Déjà à ce moment-là, je voulais déjà être le champion de la consommation à ce moment-là. Puis rapidement, j'ai découvert que la nuit, puis le nightlife, puis les parties, puis les soirées, puis les bars, c'était vraiment un lieu de liberté, tu sais, pour moi, les gens que je rencontrais, je les appréciais. Donc rapidement, là, à 18-19 ans, c'est devenu assez important dans ma vie. J'avais toujours ma vie de jour, ma vie de semaine, autour de l'école ou du travail, des choses comme ça. Puis la fin de semaine, là, je lâchais mon fou. Puis je buvais, moi j'étais un buveur, un binge drinker, là. Je buvais des grandes quantités, là. Je buvais du, je pouvais prendre entre 15 et 20 consommations dans une soirée si je sortais, ou Puis souvent aussi, quand ça virait mal, c'est quand je mélangeais beaucoup de choses. Là, si je mélangeais le fort puis le vin rouge ou ces choses-là. Puis je m'en tirais toujours parce que j'étais un assez bon manipulateur. T'sais. Fait que s'il arrivait quelque chose, je me sortais d'affaire. Puis, mais je découvrais aussi à l'époque que je voulais que les gens me perçoivent. Je voulais contrôler comment les gens allaient me percevoir. J'avais un copain à l'époque, puis je lui mentais pour qu'il sache pas tout, puis tout ça. Puis ça s'est terminé avec lui au début. J'avais dû avoir 24 ans. Là. Donc, je dirais que le milieu de ma vingtaine, c'est là où ça s'est... À chaque année, en fait, je buvais de plus en plus, puis ma santé était pire que l'année d'avant. Tu sais. Fait que c'était comme une année... Une année était toujours, c'est ça, la suite un peu plus profonde de l'année d'avant. Puis j'ai fait beaucoup de... Moi, j'ai jamais fait de cure géographique, là, tu sais, donc quand les gens changent de ville parce qu'ils veulent changer de vie. Mais moi, je faisais des cures de job, tu sais, genre, je vais changer de job, tout va se régler, ou je vais faire telle affaire, tout va se régler, ou j'ai beaucoup, encore aujourd'hui, je travaille contre ça, mais j'ai beaucoup cette pensée de lundi matin, tout va changer, là, tu sais. De me dire, si je fais ce changement-là dans ma vie, tout va bien aller, tout va être parfait, puis de pas accepter nécessairement comment je suis vraiment fondamentalement. C'est sûr que là, ça va mieux, là, mais... Donc, au milieu de ma vingtaine, ça allait plus du tout, je dirais, là. J'avais des problèmes vraiment physiques, là, liés à la consommation, là, tu sais, donc... des réactions digestives, des réactions de peau, là, tu sais, genre j'avais beaucoup de rougeurs, des choses comme ça. Puis j'étais toujours vraiment là, maintenant dans les, je travaillais en publicité à l'époque, puis j'étais toujours, c'est toujours moi qui buvais le plus. Là. Je me souviens le dernier été où je buvais, j'ai un collègue qui m'a ramené là, tu sais, j'étais comme, je sais pas comment je suis rentré chez nous, là, tu sais, mais ça c'est juste un exemple, c'est pas le pire, là, mais puis là-dedans se mélange souvent la sexualité, d'autres drogues qui rentrent là-dedans. Là, donc, c'était un peu le cocktail des dernières années de ma consommation. Puis, j'avais cette idée, j'admirais beaucoup les gens qui buvaient pas, mais qui n'étaient pas nécessairement alcooliques, juste qui buvaient pas. J'avais un ami qui était juste, lui buvait pas, c'était pas son truc. J'étais très attiré par ça, mais je savais pas du tout comment pogner cette affaire-là. Puis avec ma pensée du lundi matin, c'était comme, ah oui, je vais arrêter de boire, ça va tout régler, tu sais. Mais je savais pas du tout comment m'y prendre, j'avais visité le site des Alcooliques Anonymes, mais j'étais comme, ah, je sais pas, c'est... Mais je m'identifiais quand même, tu sais, j'étais pas... rapidement, je me suis identifié comme alcoolique. Pour moi, c'était clair que j'étais quelqu'un qui appartenait à cette catégorie de gens-là. J'étais plus qu'un gros buveur. Je voyais les gros buveurs autour de moi, mais ils perdaient pas le contrôle de leur vie de la même façon, ou de leur relation, ou, puis à cette époque-là, je parlais plus à ma mère. J'avais des problèmes de santé, problèmes d'argent. J'étais comme, tu sais, c'était tout. Je gardais en surface, je contrôlais bien les apparences, mais en dessous, mettons, disons que les fondations étaient un peu fragiles. Puis j'ai eu des moments de assez fort, assez dark là, dans ces années-là. Là, tu sais, je me suis allé assez loin pour moi là, dans cette consommation là. Puis je sais pas si c'est un hasard là, à un moment donné j'avais un rendez-vous chez le coiffeur, puis j'ai décidé que ce serait une bonne idée de prendre une coupe de verre avant, fait que j'arrive un peu chaud chez mon coiffeur, puis là, je m'assois sur sa chaise, puis là il se met à me dire qu'il a arrêté de boire depuis genre 3 mois, tu sais. Puis on dirait que 3 mois pour moi c'était comme, ou 2 ou 3 mois, mais on dirait que une longue période, ça devenait beaucoup trop abstrait. T'sais. J'étais comme, wow, OK, quelqu'un qui boit pas depuis 5 ans, comment il a fait? T'sais. J'étais attiré par le mode de vie, j'étais attiré par la sobriété, mais 3 mois, c'était comme, OK, lui a été capable, je pourrais essayer. T'sais. Je demande comment il a fait, puis il me parle des meetings, puis c'était comme au milieu de l'automne, puis à la fin, vraiment en décembre, j'avais un party de travail, puis encore une fois, c'était moi qui ai le plus consommé, puis à un moment donné, j'avais juste envie de faire de la drogue, puis c'était moi qui mettais la musique dans le party, puis on était peut-être une quinzaine, vingtaine de collègues, puis j'ai juste parti avec la musique. T'sais, j'ai comme privé mes collègues de party, de musique, parce que j'étais comme, moi, je n'ai assez, c'était poche, là, je les jugeais, puis j'étais comme, je mérite mieux que d'être ici, fait que je suis comme parti. T'sais. Ce qui n'était pas la pire beuverie de ma vie, cette soirée-là, mais... C'est ce lendemain matin-là que j'étais comme, OK, faut que ça arrête. Puis la douleur aussi, c'est pas tant ce qui arrivait, c'était la douleur que je ressentais, la souffrance, le manque de confiance, une grande anxiété, une grande dépression. Puis incapable d'arrêter, en fait. Dès que je prenais mon premier verre, c'était comme, ça partait en fou, là. Puis cette consommation-là, aussi, un des signes aussi avant que j'arrête de consommer, c'est que j'étais plus capable nécessairement d'avoir des relations intimes sans avoir consommé. Pour moi, j'ai eu peur quand j'ai réalisé ça. J'étais comme, ah, OK, c'est peut-être pas... je suis pas capable d'aller sur une date ou pas capable d'entrer en relation ou d'entrer en contact avec quelqu'un sans être assez... pété, là. Puis moi, dans mon milieu, c'était, tu sais, je travaillais dans la publicité, fait que c'était comme bien normal là, de trop boire tout le temps. Fait que j'ai en décembre 2011, les problèmes étaient tellement empilés, problèmes d'argent, tu sais, j'étais comme, OK, il faut que je fasse un changement. Puis, un samedi matin après le fameux party de job, j'ai pas rebu ce jour-là, puis j'ai pas rebu le dimanche, puis j'ai pas rebu le lundi, puis le mardi, je suis allé à un premier meeting avec mon coiffeur, qui est mon ami, mais qui à l'époque lui faisait du meeting à Westmount, puis je me souviens encore, c'était le sol d'une église, bien sûr, puis c'était des gens, tout de suite, je me suis senti chez moi, tu sais, ça a été vraiment, j'ai été béni là-dessus, là. tout de suite, là, j'ai pas senti que c'était pas ma place, là. J'ai senti que j'étais à ma place, les gens de plein d'âges différents, de plein de backgrounds, ou ça se sent dans l'énergie des gens aussi, d'où ils viennent, puis qu'est-ce qu'ils font, puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, je pense que le mouvement des alcooliques anonymes a peut-être quelque chose pour moi, mais j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais.
Thomas, c'est très, très prenant, hein, cette arrivée rapide dans l'émission à la porte des AA. On voit que t'as eu le temps de poser un regard sur ton passé, tes comportements et les résultats néfastes de ta consommation. J'en suis ravi. Un jeune membre qui arrive à fin vingtaine, début trentaine, c'est tout à ton honneur. On va apprendre la suite après cette première pause.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
Nous revoici donc en compagnie de Thomas. On a eu la chance d'apprendre à le connaître un petit peu, de faire un survol de ses années de consommation, une habitude qui s'est rapidement installée dans sa vie et qui est devenue source de problèmes. On y revient dans un instant. Je vous fais la lecture d'un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions de Bill. Nous croyons qu'il n'existe pas sur Terre une association qui entoure chacun de ses membres d'autant de sollicitude. Sûrement aucune ne protège plus jalousement le droit de chacun de penser, de parler et d'agir comme il l'entend. Aucun membre ne peut en forcer un autre à faire quoi que ce soit. Personne ne peut être puni ou exclu. Nos 12 étapes sont des suggestions et les 12 traditions qui garantissent l'unité des AA ne contiennent pas une seule interdiction. Il est toujours dit « nous devrions » et non « vous devez ». Quelle belle souplesse, quelle belle tournure de phrase hein, que nos pionniers ont été inspirés par une puissance supérieure pour écrire ces étapes, ces traditions, ces règles de base, ces suggestions pour nous guider dans notre démarche, mais souvent cette ouverture d'esprit, cette souplesse, cet accueil sauve beaucoup de vies parce que si il aurait fallu qu'on me refuse quelques traits de caractère que ce soit ou probablement que je ne serais pas ici aujourd'hui et Thomas non plus. Donc, on revient à ce jeune adulte alcoolique non avoué qui se retrouve devant peut-être une solution. On t'écoute.
Je trouve ça intéressant que la pensée évoquait le « nous » parce que moi, j'ai... Je pense pas que je serais resté si ça avait été du vous, puis du tu, puis du ce que vous devez faire, puis qu'on m'avait donné des... Moi, je suis un rebelle, puis j'aime pas l'autorité. Ça a été un problème souvent, mais j'ai eu beaucoup de ressentiments face à des figures d'autorité dans ma vie. Fait que ça, l'organisation, je pense que c'est une des premières choses au début quand j'ai rejoint le mouvement où j'ai tout de suite adhéré à la façon de faire, que chaque groupe était autonome, que les groupes étaient gérés avec des gens qui étaient élus pour servir. Là. Donc, je trouve que la pensée du jour rappelle ça. Donc, je commence à faire du meeting à 26 ans, puis j'ai rapidement, pour moi, ça clique, où je vois que la dépendance, là, c'est vraiment un fil qui traverse toute ma vie. Depuis longtemps, depuis l'enfance, avant l'alcool, là, tu sais. Comportement excessif. Quand je commence quelque chose, c'est très difficile pour moi d'arrêter. Je suis un intense, donc dans toutes les sphères de ma vie, là, de, bien sûr l'alcool, mais aussi le travail, le sexe, la bouffe, là, tout ça, name it, là, c'est assez. J'ai pas mal de misère à me contrôler en général. Donc facilement, je me suis identifié. Puis au niveau des meetings aussi, ça me faisait du bien. C'était comme un lieu où aller, où entendre des histoires. Puis encore à ce jour, les histoires que j'ai entendues dans les meetings, c'est les histoires les plus vraies que j'ai entendues de ma vie. Là, moi, j'adore les heures, là, mais la vérité qui émane de quelqu'un qui se livre et qui se dévoile dans l'anonymat. C'est un pouvoir là, vraiment très très puissant là-dedans. Puis l'anonymat aussi, ça pour moi ça a été important au début parce que moi je cherchais la reconnaissance tout le temps. Je voulais être comme qu'on m'apprécie, je voulais qu'on me regarde, mais là c'était comme ça servait à rien. Tu sais, c'était pas ça le but. Fait que ça m'a beaucoup fait de bien cette ambiance là dans mes débuts. Puis tranquillement, j'ai gravité vers les groupes. J'avais 26 ans, fait que j'ai gravité vers les groupes de jeunes à l'époque. Qui était vraiment formé de gens. Moi, j'habite à Montréal, donc qui était formé autant de francophones, d'anglophones. Il y avait comme une camaraderie que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Les gens faisaient des choses à l'extérieur. Donc, les premiers mois, là, j'ai cherché ces meetings-là, puis j'ai comme trouvé un peu ma gang. Là, tu sais. Je pense que c'est quelque chose d'important quand on se joint au mouvement, de trouver quelque chose qui marche avec nous, avec ce qu'on cherche, avec ce dont on a besoin. Mais... J'étais encore quand même, j'avais tous mes défauts de caractère, puis j'étais encore très, très perfectionniste. Donc, je comprenais l'idée des étapes, je comprenais l'idée qu'il y avait du travail à faire, mais je voulais trouver le parrain ou la marraine idéale. Tu sais, le parrain dans mon cas, parce que j'étais un gars, mais le parrain idéal. Puis, je regardais, puis je trouvais que personne n'était assez bon pour moi, bien entendu. Tu sais, souvent, c'est un trait après, je le dis, puis j'imagine qu'il y a plein de membres qui se reconnaissent, mais... Puis mon fameux ami, là, mon coiffeur qui m'a initié au meeting, un moment donné, il a perdu patience avec moi, puis il m'a dit, ben juste prends mon parrain, puis fais les étapes une première fois, puis tu vas catcher quelque chose. Puis c'est là que le vrai, vrai travail a commencé. T'sais. Faire du meeting où je me suis comme déposé les premiers mois, mais quand j'ai commencé les étapes, puis la façon dont moi je les ai faites avec ce premier parrain-là, c'était en lisant le gros livre. On s'assoyait une fois par semaine pendant une heure, deux heures, puis on lisait un chapitre. Les préfaces, l'opinion du médecin, l'histoire de Bill, toutes les plus sur l'alcoolisme, tous les premiers chapitres. Pour comprendre la maladie, comprendre la condition, comprendre aussi. Moi, j'adore l'histoire, fait que de comprendre le moment historique dans lequel les alcooliques anonymes sont nés, puis le genre, l'âge que Bill avait quand il consommait, puis le fait que toute sa vie, moi, ça m'a beaucoup intéressé à ce moment-là. Puis, mais il faut que je dise qu'au début, je comprenais pas tout, mais je faisais confiance au processus. Tu sais, je me disais, ah, c'est compliqué. Puis en plus, je pense qu'on lisait en anglais à ce moment-là, parce que mon parrain est anglophone, puis il manquait des bouts, mais j'étais comme, c'est pas grave, je vais continuer, je vais le faire une fois, voir qu'est-ce que ça dit. Puis la première étape, ça m'a fait beaucoup de bien, c'est d'accepter que j'avais un problème. Tu sais, ça a fait... j'ai pas résisté à l'alcool. L'alcool, ça a été facile d'accepter que j'avais un problème. Il y a d'autres choses dans la vie où des fois j'ai de la misère à accepter que j'ai un problème, mais l'alcool, c'était pas ça. J'ai jamais eu l'illusion que je pouvais boire normalement. J'ai jamais bu normalement. J'ai jamais été capable d'arrêter après un ou deux verres. Ou même aujourd'hui, si je vois les campagnes là, qui disent Je pense que c'est 3 verres pour les gars, 2 verres pour les filles. Je suis comme, mon Dieu, j'ai jamais bu 3 verres seulement. Là, tu sais, je sais pas. J'aurais pas été capable. T'sais. Donc, pour moi, ça, c'était très, très clair que j'admettais que j'étais un alcoolique à ce moment-là. Puis, en lisant le gros livre, on traverse ensuite l'idée de la puissance supérieure, tu sais, qui est fondamentale. Puis, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai été dans une école avec des sœurs, mais j'ai pas été traumatisé par la religion. Mais j'ai mis ça de côté, je dirais, parce que on n'est pas dans une société qui est comme particulièrement croyante ou religieuse, tu sais. Puis ce que je retenais de mon enfance avec les sœurs, c'était que c'était une bienveillance, puis une bonté, puis un respect beaucoup. Tu sais, c'était ça les valeurs qui étaient véhiculées. C'était des bonnes valeurs. J'étais assez jeune, fait que j'ai pas connu les abus de la religion de cette façon-là, tu sais, qui sont réels, puis je pense qu'il y a des gens qui sont très marqués par ça. Fait que, mais mettons, j'ai pris mes distances dans ma vie après ça de cette espèce de bonté-là que j'avais à l'intérieur, mais je l'ai comme emmuré, tu sais, je l'ai caché, tu sais, pour être un, je sais pas, tu sais, pour être tout ce que je pensais qu'il fallait que je sois pour être accepté. Puis en arrivant à la deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Tu sais, c'est là que j'ai fait, OK, je peux tout seul, tu sais, je peux me fier à quelque chose qui est plus grand que moi, puis je peux me fier à une source. Je pense que j'étais croyant déjà, mais j'ai pas une croyance, comme beaucoup de gens, je pense, dans le mouvement ou beaucoup de gens dans la société, c'est pas une croyance qui est axée vers une religion qui est très organisée. Pour moi, c'est une croyance spirituelle, c'est une croyance dans l'intuition, dans la lumière, dans la bienveillance, des valeurs comme ça. Mais il fallait quand même que je m'en remette à ces croyances-là. C'est pas parce que j'y crois que je laisse ces croyances-là mener ma vie, tu sais. C'était deux affaires différentes. Là, dans le concret de ma vie, je pouvais y croire, mais c'était pas comme ça que je vivais ma vie à ce moment-là, tu sais. Beaucoup d'égoïsme, beaucoup de ressentiment. Mais ce que je savais pas ce que c'était le ressentiment parce que j'étais pas encore rendu là dans les étapes. C'était pas quelque chose qui était concret pour moi. Puis, je me souviens d'être rendu à la troisième étape puis de me dire, OK, je peux faire confiance à ce feeling-là en dedans, là. Tu sais, cette espèce de... Pour moi, c'était assez simple. J'étais chanceux là-dessus. J'ai pas surcompliqué. J'ai pas intellectualisé ça, la puissance supérieure. Pour moi, c'était en dedans de moi. C'était une intuition, une chaleur, puis que je fallait que je prenne la décision concrète de laisser ça mener ma vie. Puis des années plus tard, j'ai découvert que la troisième étape, en fait, elle a deux parties. Puis la première partie, c'est de s'en remettre à la puissance supérieure, mais la deuxième partie, c'est que ça devienne un exemple pour les autres. T'sais. Puis en fait, moi, je m'en suis remis à ma puissance supérieure parce que j'ai vu d'autres gens s'en remettre à leur puissance supérieure. Puis en m'en remettant, moi, à la mienne, j'espère qu'il y a d'autres gens qui s'en sont remis à la leur. T'sais. Je me souviens bien de ce printemps-là, printemps 2012, qui était au Québec un printemps vraiment électrique, mais moi, j'étais pas du tout dans les manifestations puis dans les actions. J'étais dans ma bulle, là, j'ai aucune idée. C'était un moment de... Les rues étaient fermées pour des manifestations, mais moi, j'étais ailleurs dans ma vie. Là. Moi, je manifestais en dedans de moi, là, tu sais, puis j'étais dans des meetings, puis j'étais vraiment déconnecté de la société, mais j'avais besoin de ça pour me connecter à moi-même, puis me brancher à moi-même, tu sais. Puis on se voyait avec mon parrain à chaque semaine, 1 heure, 2 heures, puis on lisait. Puis éventuellement, on est arrivé à l'inventaire, à la quatrième étape. Tantôt, je disais que je comprenais pas tout. Là, je comprenais rien, mais j'ai fait confiance que ça se pouvait. T'sais. J'ai fait confiance. C'est cette idée-là de faire une liste de peurs, une liste de gens que j'ai heurtés, une liste de ressentiments, puis que j'examine dans chaque cas mon comportement, puis comment mon comportement a mené à ça. C'était un processus, j'y avais jamais pensé de même, mais ça, j'étais ouvert. J'avais de l'ouverture d'esprit pour croire que ce processus-là allait pouvoir changer ma vie.
Thomas, je t'arrête pour une deuxième pause. C'est ce que je ressens dans ton discours depuis le début, cette ouverture depuis le début de ton témoignage. Il y a cette volonté de comprendre, de connaître, de ressentir qui t'habite et elle est palpable dans le microphone. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette simplicité de description d'une puissance supérieure, la source de bonté, de calme et de chaleur qui nous habite. Merci infiniment, on revient dans un instant.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe.
Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous écoutez Un jour à la fois. Je me prénomme René et je suis en compagnie de Thomas qui nous informe de ses prises de conscience, de son expérience personnelle face à l'étude du gros livre, des étapes de cette recherche de connaissance de soi. On abordait la quatrième étape qui est un inventaire approfondi de soi-même avant la pause. On y revient dans un instant. Je vais tout d'abord vous informer de notre site internet, le unjouralafois-émission.org. qui te donne accès à notre banque de partage archivée pour écoute sur tous tes appareils intelligents. Donc, avec une connexion Internet, Wi-Fi, partout dans le monde, tu peux écouter le partage de Thomas en français et rester en contact avec la solution, le mode de vie. Et comme il le décrivait, se laisser porter par l'histoire de quelqu'un, c'est toujours intéressant, surtout quand c'est rempli de vérité et d'humilité. Sur ce site, il y a les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et notre adresse courriel pour toute question, commentaire et provoquer une invitation, une rencontre en studio pour toi aussi venir partager ton vécu. Donc Thomas, je me tais et on t'écoute.
Merci. Donc quand je fais la rencontre de la quatrième étape, au début... c'est pas clair là, pour moi là, que si je fais une liste de peurs puis une liste de ressentiments puis de il y a eu l'inventaire sexuel aussi là, dans la quatrième étape là, de puis moi j'en avais un pas pire là, au départ c'était pas clair pour moi le rôle que ça avait à jouer avec nécessairement l'alcool directement, mais je comprenais quand même parce que j'avais pris la décision de me tourner vers ma puissance supérieure, qui était aussi une forme d'intuition. Pour moi, l'intuition, ça rentre là-dedans. Je comprenais que ça allait... que je devais prendre responsabilité, en fait. Puis AA, c'est un programme de responsabilité. Il y a la prière de la responsabilité. Donc, je voyais que je devais devenir responsable si je voulais comme passer par-dessus. Puis à l'époque, je parlais toujours pas à ma mère. Puis je la ramène parce que c'était mon premier ressentiment, c'était mon plus grand ressentiment. Moi, j'ai eu des grands ressentiments envers mes deux parents. Moi, je suis enfant unique, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Mes parents se sont séparés, j'avais 7 ans. Et moi, l'idée de la famille, c'est compliqué parce que j'ai pas, tu sais, ils ont comme leur famille, mais j'ai pas, nous, notre famille. J'ai eu beaucoup de beaux-parents aussi qui sont entrés puis qui sont sortis de ma vie. Fait que j'ai passé des temps des fêtes ou des fêtes familiales avec plein de familles que j'ai jamais revues ou que j'ai vues quelques années. Puis mon père s'est marié 2 fois, ma mère s'est mariée 1 fois. Puis le mari de ma mère est décédé, mon père s'est divorcé. Donc ça a été quand même... pour moi, c'était l'idée de la famille puis de faire confiance, c'est très difficile. C'était difficile à ce moment-là. Puis c'est pas étranger au fait que je me suis tourné vers l'alcool, je pense, puis vers la consommation à l'adolescence, parce que je pense que je cherchais quelque chose pour geler cette feeling-là. Mais les AA m'ont vraiment à cette époque-là de ma vie, puis pendant plusieurs années, je peux dire que c'était vraiment une famille. Là, c'était vraiment quelque chose qui était. Encore aujourd'hui, mais ça évolue. Puis je pense que c'est ça, les gens qui restent puis qui accumulent les années aussi, ça notre rapport évolue, notre rapport aux membres évolue, notre rapport à notre famille, parce qu'on reprend contact. Moi, j'ai repris contact avec ma mère là, en faisant les étapes. Puis quand je suis arrivé aux étapes plus ultérieures, là, sur la où j'ai fait amende puis j'ai réparé mes torts. Mais pour revenir à la quatrième étape, j'ai fait cette liste là, de ressentiments, de peurs, puis j'ai examiné qu'est-ce que ça venait affecter chez moi, est-ce que ça affectait ma sécurité, mon portefeuille, toutes ces choses-là qui sont expliquées dans le gros livre. Puis surtout, voir qu'est-ce qui était ma responsabilité, comme je disais là-dedans. Puis éventuellement, j'ai fait une cinquième étape avec mon parrain, puis ça, c'est un des moments marquants de ma vie. On est... genre à la fin du printemps 2012, il fait très beau, je suis dans l'appartement de mon fameux coiffeur qui lui est au travail, puis on se rejoignait là, c'était comme pratique, puis En une heure ou deux, je passais à travers, deux ou trois heures, c'était assez long. Je passais à travers toute ma liste. Puis c'est cette espèce de confession-là, parce que dans le gros livre, on dit qu'il faut choisir quelqu'un de confiance, à qui dévoiler son inventaire. On a pris le temps quand même de regarder chacun des items, mais toujours en regardant ma responsabilité, jamais en accusant ou jamais en disant « mais là, tel ressentiment envers un boss ou envers mon père, whatever, tu sais, qu'est-ce que l'autre a fait pour me heurter? » C'est toujours « ok, non, moi, c'est quoi ma responsabilité? » Puis ce que j'ai appris dans les années aussi, c'est que j'ai une responsabilité dans les situations, mais des fois, il y a un abus réel, puis on n'est pas responsable. Mais j'ai une responsabilité dans le ressentiment que je conserve. Tu sais, j'ai une responsabilité dans le fait de m'accrocher à mon ressentiment. Tu sais. Je dis ça, mais je dois m'en rappeler encore aujourd'hui. Je l'air smart, là, mais des fois, ça m'arrive encore. Fait que j'ai puis c'était une magnifique journée. J'ai ressenti là, un bien-être après cette cinquième étape-là. Puis je me suis encore de la marche en quittant l'appartement puis en rentrant chez moi. Puis à chaque fois que je remarche dans ce quartier-là, je repense à ce moment-là. Ça a été vraiment un très, très beau moment pour moi, là, cette rencontre-là. Puis c'était un parrain qui était particulièrement motivé aussi. Là, fait que ça, j'ai été vraiment chanceux. Puis éventuellement, j'ai été capable de faire cette liste là, à la sixième, septième étape. Là. Donc, nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. Donc, je fais une liste de mes défauts de caractère là, qui était, dans mon cas, souvent le perfectionnisme, mensonge. Je me souviens pas à l'époque c'était quoi. Je connais ceux d'aujourd'hui, mais ceux de l'époque, je m'en souviens pas. Puis, puis rapidement, il a fallu que j'arrive à faire la liste des personnes que j'avais heurtées. Puis ça, c'était un autre... Ça devenait réel, là. C'était bien beau, l'inventaire, puis la rencontre, puis Dieu, puis tout. Mais là, OK, d'aller faire une liste, de dire, OK, là, j'ai heurté cette personne-là, puis il faut que j'aille la rencontrer, puis voir qu'est-ce que je peux faire, puis sans que ce soit à propos de moi. Tu sais, moi, c'était souvent ça, c'est que j'aurais fait un show, là, tu sais, j'aurais été, je m'excuse, tu sais, mais là, ça, c'est pas plus utile, là, tu sais, on change pas vraiment réellement le comportement, tu sais. J'ai fait plusieurs amendes à cette époque-là, là, donc des employeurs, des collaborateurs, des gens avec qui j'avais eu des... ou même des anciennes relations. Puis il y a deux... Ce processus-là m'a permis deux grands miracles dans ma vie. Le premier, c'est de réparer ma relation avec... un ex, là, tu sais, qu'on a été ensemble 6 ans, on était très, très jeunes, mais clairement, il y a quelque chose entre nous. Puis, le couple s'est terminé, mais on savait qu'on voulait rester amis. Mais c'était difficile parce que moi, je mentais, je l'ai trompé beaucoup, tu sais, j'ai brisé notre confiance, là, à répétition. Puis, les amendes, puis le processus des étapes m'ont vraiment, vraiment permis de réparer cette relation-là. Puis aujourd'hui, c'est mon meilleur ami, là, tu sais, on dit tout, puis c'est très honnête, puis... les étapes, puis la huitième, la neuvième aussi, de faire donc cette liste de personnes, puis après ça, d'aller réparer mes torts directement vers les personnes dans la mesure du possible. J'ai revu ma mère aussi à ce moment-là. On s'est pas vu pendant 2 ans. Moi, j'avais eu besoin d'une pause, je pense. Je sais que ça l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup blessé. Puis je sais qu'elle-même avait des problèmes de consommation, puis d'alcool, puis ça lui était arrivé de m'appeler... après avoir bu ou ça lui était arrivé de m'appeler, tu sais, c'était quelque chose qui était difficile. Puis dans ma première année de sobriété aussi, j'ai commencé à regarder ma famille parce que j'entendais souvent l'alcoolisme, c'est une maladie familiale. Puis moi, quand j'étais jeune, mes parents buvaient pas, fait que c'était comme non, c'est moi, tu sais. Et pour finalement réaliser qu'en fait, non, la période où j'ai arrêté, on était comme 4 ou 5 dans ma famille à arrêter ou au moins prendre conscience qu'on avait un problème, tu sais, des cousines, des oncles, des tantes ou des... Puis chacun, on le vivait, on n'est pas proche, là, tu sais, fait qu'on vivait pas ça ensemble, mais on dirait que ça m'a rassuré de voir, de me dire, OK, genre, je sors pas de nulle part, là, tu sais, je sors d'une famille, je sors d'une histoire, je sors d'un... Puis finalement, j'ai revu ma mère, puis tranquillement, puis nous, quand j'étais jeune, tu sais, j'étais enfant unique, puis elle était monoparentale, qu'on était tout le temps ensemble, très, très, très proches. Puis la relation était très brisée là, quand on a repris, mais tranquillement, on a été capable de remettre ça sur les rails, puis elle a fait beaucoup, beaucoup de travail sur elle. Puis éventuellement, elle a arrêté de boire, puis elle a commencé à faire du meeting, puis ça, c'est le grand, grand miracle de mon rétablissement, là. C'est ma relation avec ma mère, là. C'est qui est pas parfaite, puis qui, j'ai encore diminué tout le temps les petits ressentiments qui remontent, puis ces affaires-là, mais tu sais, ça a vraiment permis de changer la game, là, complètement dans notre rapport, dans notre relation, de voir nos dépendances, de voir nos chacun nos comportements, puis de l'accepter. Je pense que ce qui était le plus difficile, c'est pour moi, c'est de l'accepter comme elle est. Moi, j'aurais voulu la changer, j'aurais voulu qu'elle soit autrement, mais ouais. Donc, j'ai fait cette amende honorable-là en personne. Puis ça reste un autre moment. Là. Je parlais de la cinquième étape tantôt, mais l'amende honorable aussi, ça reste un moment qui m'a marqué à ce moment-là. Tout ça s'est passé dans la première année de mon rétablissement. Ouais. Mais autant j'ai appris beaucoup, c'est pas de tout ça dont j'ai le plus appris. Ce dont j'ai le plus appris, c'est de parrainer, en fait. J'ai commencé à parrainer après ça. Et là, ça, c'est la vraie affaire, là. Ça, c'est la vraie affaire. Pour moi, là, ça a été... Puis là, je le dis, puis en ce moment, je parraine pas parce que pour plein de raisons où j'ai comme... À un moment donné, c'est devenu très intense comme expérience, là, mais ça a été un grand privilège là, de lire le gros livre avec des filleuls, puis de les accompagner, puis d'échouer. J'ai tellement échoué de plein de façons, puis de vouloir être aimé par un filleul, vouloir... Tu sais, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai réussi d'autres affaires, tu sais, puis des gens de qui j'ai jamais rien entendu parler, des gens que je fréquente encore aujourd'hui, puis là-dedans, moi, j'ai changé de parrain, j'ai refait les étapes une couple de fois aussi. Donc, vraiment, ça a été... Quand on dit que c'est un mode de vie, là, pour moi, là, ça a été un... Aujourd'hui, c'est plus un... Moi, je dirais que je comparerais ça à un système d'opération, là, tu sais, dans un téléphone ou un ordinateur, tu sais. Je vois ça. Aujourd'hui, le programme, je l'ai tellement pratiqué que c'est comme... C'est en moi, tu sais. Si j'ai une petite angoisse, la prière de la sérénité, elle me part dans la tête. Ou si j'ai... Tu sais, c'est des trucs comme ça. C'est là que j'en suis aujourd'hui, mais je l'ai pratiqué, là. Je l'ai pratiqué longtemps.
Thomas, je t'arrête pour un court instant. Je te remercie infiniment. Ce que je retiens de ce segment, c'est évidemment le travail sérieux et action, celle de la quatrième, cinquième et neuvième étape. J'ai revécu moi-même ce dur moment, ce moment de croissance, de prise de conscience extrêmement puissant où on se responsabilise pour une première fois dans sa vie et on va dire aux gens qu'on aime, qu'on a blessé, qu'on aurait aimé faire différemment et qu'on est prêt maintenant à recommencer. Merci.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes... Ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
Ça y est, on est prêt à conclure ce merveilleux moment passé dans la vie de Thomas. Une personne très mature, très posée dans son regard sur sa vie, une connaissance approfondie du mode de vie, des étapes, de l'étude des gros livres. On parle de toute la structure, le parrainage. Il y a beaucoup d'informations dans ce témoignage et on va se plaire sûrement à le réécouter dans le futur lorsqu'il sera disponible sur notre site. Avant de poursuivre, si Thomas a stimulé le désir de connaître et de comprendre davantage ta consommation ou ton état actuel, ben je t'invite à rechercher le aa-québec.org où tu trouveras par exemple le numéro de la ligne d'aide de ta région. Si tu ressens le besoin de parler, il y a un bénévole qui t'attend de 9h à 10h à tous les jours et ça a été la porte d'entrée pour plusieurs d'entre nous. Il y a aussi sur ce site la liste des réunions près de chez toi avec une carte virtuelle et les adresses de chacun de ces établissements et évidemment réponse à toutes les questions sur la structure de ce grand organisme. Thomas, il te reste une dizaine de minutes. Le plancher est à toi.
Mais je parlais du parrainage là avant qu'on arrête. C'est quelque chose que quelque chose qui a occupé une grande place dans ma vie pendant après la première année où j'ai fait les étapes. Mon parrain m'a vraiment encouragé à parrainer puis à lire le gros livre avec des filles. Fait que comme je l'avais fait avec lui, hein, fait que je rencontrais la personne une fois par semaine, puis on lisait certaines parties du gros livre, puis... en fait, ça, c'est l'incarnation de la 12e étape. T'sais, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Puis tous les domaines de ma vie, ça, c'est quelque chose encore aujourd'hui où je dois me souvenir que ma dépendance et la solution sont partout, là, tu sais, sont dans mon compte de banque, sont à l'épicerie, sont dans mon téléphone aussi, dans tous les lieux où on peut où je peux être un peu excessif. J'ai l'air de connaître mon affaire, mais j'ai beaucoup de difficultés quand même encore aujourd'hui, souvent beaucoup avec la prière, la méditation, c'est quelque chose de me reposer, de me déposer puis de rester avec moi-même. Ça me fait très peur, en fait. Je pense que c'est pas à faute d'avoir essayé, parce que quand je médite, ça marche, puis c'est le fun, mais... La 11e étape, là, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions. Là, ça reste un défi pour moi. Puis je pense aussi que c'est important d'être vraiment honnête puis humble puis dire que j'ai pas consommé, mais dans la dernière année, on dirait que j'ai comme perdu le goût des meetings puis du mode de vie. On dirait que je le faisais peut-être un peu par ego spirituel, tu sais. Puis je pense que c'est quelque chose qui est assez présent des fois dans mon parcours ou dans quelque chose que j'ai pu voir aussi chez d'autres membres avec qui je parlais, où j'arrivais à un moment où j'étais comme, ah, mais là, ça fait, tu sais, je suis plus nouveau, là, ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, tu sais, je pense qu'il y a comme un moment là-dedans où je me suis brûlé, puis là j'ai un désir là, vraiment de me reconnecter avec comme la base, puis de revenir, puis de quelque chose que j'ai entendu beaucoup au début, c'est toujours se souvenir qu'on est toujours des nouveaux, puis c'est un 24 heures à la fois là, tu sais, fait que je pense que ça c'est important pour moi de me ramener à ça, puis de me regrounder là-dedans. Léa, c'est un mouvement extraordinaire qui m'a vraiment apporté là, tellement de choses dans ma vie, tellement de choses que j'ai accomplies, que j'ai réalisées, des rêves que j'avais que je pensais pas qu'il était possible, que j'ai réalisé dans les dernières années, qui vont d'une relation de couple à des projets artistiques, à des relations avec des membres de ma famille. Puis ma vie est pas parfaite, mais il y a comme beaucoup d'éléments qui auraient pas été possibles, je pense, si j'avais pas fait les étapes. Puis en parallèle, en fait, quelque chose qui a vraiment bien marché, puis je peux partager là-dessus aussi dans ma vie, c'est que j'ai fait tout le travail des étapes, puis je me suis donné dans AA. Mais j'ai aussi fait une longue psychothérapie, en train de la faire là, depuis 8-9 ans, là, longtemps, toutes les semaines. Puis vraiment, là, quelque chose qui est assez stable dans ma vie. Puis la raison pour laquelle j'ai rejoint AA, en fait, c'est qu'au début de la psychothérapie, je mentais à ma psy. Fait que je me disais, bon, ben, c'est peut-être pas super utile. Fait que bref, ces deux éléments-là, d'avoir le parrainage puis d'avoir des ressources spécialisées à l'extérieur, pour moi, ça m'a apporté, puis je suis très privilégié parce que j'ai été capable de faire ça, mais ça m'a vraiment apporté l'encadrement que j'avais besoin pour me transformer, tu sais. Puis d'être patient, puis de prendre le temps, puis de voir que encore aujourd'hui, il y a des choses qui sont difficiles, mais tranquillement, ça se place. Ce qui est génial de AA, comme c'est un programme de responsabilité, je peux pas m'apitoyer ben longtemps, là. Tu sais, si je disais une affaire en thérapie, genre, j'étais victime de telle personne, de tel comportement, mais rapidement, il y a le petit flag AA qui dit « Ouais, mais c'est quoi toi ta responsabilité? C'est quoi toi ton but dans cette affaire-là? » En anglais, on dit « your side of the street ». Et au contraire, tu sais, vraiment les deux pour moi ont comme été deux, vraiment un équilibre, vraiment comme une balance, là, tu sais. Je vais peut-être finir en disant que j'ai voyagé un petit peu dans la sobriété aussi. J'ai fait des meetings à quelques endroits, là, pas tant que ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment chouette aussi, de connecter avec des gens à l'extérieur ou dans d'autres pays ou dans d'autres villes qui ont la même vraiment trippants, qui ont la même foi puis le même parcours. Puis même si on se connaît pas, on se connaît. Là, ça, ce feeling-là, là, c'est, j'ai jamais vécu ça ailleurs. Là, c'est dans l'humilité, puis dans l'humour, puis dans l'amour, puis dans... on n'est pas, on sera pas des grands amis dans la vie, puis on va peut-être jamais se reparler, mais ce feeling-là, dans le moment présent, de se sentir, OK, là, on connecte, là, c'est vraiment, vraiment un côté super trippant de AA. Puis aussi de se souvenir que, tu sais, c'est des êtres humains qui ont eu la je sais pas, l'intuition ou qui ont ramassé plein d'affaires qui existaient à ce moment-là dans les années 30 pour se dire, OK, si je suis un alcoolique puis que je parle à un autre alcoolique, je vais m'en sortir aujourd'hui, tu sais. C'était ça la base, tu sais, parce que ce qu'il raconte dans le gros livre, Bill, c'est qu'il était dans une autre ville en juin 35 puis qu'il avait envie de consommer. Ça faisait 6 mois qu'il n'avait pas bu depuis décembre, puis il était comme, OK, il faut que je trouve quelqu'un qui parle, sinon je vais boire, tu sais. Puis il a trouvé le docteur Bob, puis l'idée de parler à un autre alcoolique, c'est à ce moment-là pour s'en sortir, pour sauver sa vie, mais pour sauver la vie de l'autre aussi, c'est là que c'est né, tu sais. Fait que moi, je reviens à cette... Quand la vie devient comme compliquée ou que j'ai dans ma tête ou que je suis plus sûr, mais tu sais, je reviens à ce principe de base-là de se dire, OK, mais si je peux m'en sortir, c'est si je parle à un autre alcoolique, ça devrait être correct, tu sais. Puis tu sais, tout ça, c'est raconté dans le gros livre, mais moi, ça me fait capoter l'histoire de... Ils se rencontrent, puis là, ils réalisent que ça marche, puis ils vont rencontrer d'autres alcooliques, puis rapidement, il y en a une centaine qui vont se rétablir, puis ils décident d'écrire un livre qui devient le gros livre des alcooliques anonymes, qui paraît en 39, là, tu sais, fait que c'est pas... si les gens entendent ça, là, c'est pas long, là, 34, 35, 39, c'est 4, 5 ans de sobriété, fait que c'est pas... faut pas penser, là, que l'illumination extrême vient après 25 ans de sobriété, là, ça peut arriver rapidement, puis il faut juste mettre le temps, puis l'effort, puis trouver d'autres alcooliques avec qui faire ce travail-là. Puis ça, c'est ce que j'ai appris dans le gros livre, mais aussi beaucoup, beaucoup dans les meetings, là, en fréquentant, en étant là physiquement, dans la chaise, en faisant du service aussi. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, beaucoup aimé ça, là, faire le café, animer. Là, c'est sûr qu'on vit quelque chose de spécial en ce moment parce qu'on peut pas se réunir. Fait que ça va être chouette de se retrouver quand ce sera possible.
Thomas, je te remercie. Avant de terminer, il nous reste quelques minutes. J'ai bien aimé le sujet que tu as apporté de pouvoir voyager et d'avoir accès à une salle d'alcoolique anonyme un peu partout dans le monde. Ça me rappelle justement, toi qui semble avoir lu beaucoup de notre littérature, le tour du monde de Lois après la mort de Bill, qui est allé voir ce que son mari et Dr Bob avaient créé à travers le monde. Absolument incroyable. Et des gens qui nous accompagnent aujourd'hui, qui ne sont pas alcooliques, mais qui font des recherches intérieures, des croissances spirituelles, sont jaloux de cette facilité de pouvoir se connecter entre nous, d'avoir une salle de réunion et de ne pas être jugé, d'être accueilli partout dans le monde par j'ai une amie membre qui est allée en Inde, au Cambodge, qui comprenait absolument rien de ce qui se passait dans la salle, mais touchait à ce miracle que Bill et Bob nous ont transféré. Sûrement la manifestation de l'univers et d'une puissance supérieure, un alignement des planètes qui a fait que ceci ait fonctionné. Et tant qu'à parler d'histoire, la propagation de ce message qui a été fait par les commis voyageurs des années 50 et évidemment l'armée américaine qui a amené ça un petit peu partout à travers les continents. Thomas, j'ai adoré le moment passé à ta compagnie. Tu es une personne très riche, très lumineuse. Les gens ne peuvent pas te voir. Il y a une belle présence ici en studio. Je suis ravi de cette rencontre. Mon implication m'amène à toucher à ce privilège. J'en ressors grandi à chaque fois. Merci infiniment d'avoir accepté et de t'être déplacé. Je fais le tour des remerciements. Celle de notre invité est faite. Il nous reste les auditeurs. Nous sommes absolument ravis de votre présence et de votre bouche à oreille qui se fait de plus en plus. Toute l'équipe d'Un jour à la fois qui travaille dans l'ombre pour le montage et le peaufinement de ce beau produit. Il y a aussi évidemment nos collaborateurs radiodiffuseurs qui nous transmettent, nous prêtent leur temps d'antenne à travers le Québec français. Et ben un petit merci à moi-même. D'habitude, je ne me mets pas sur la liste, mais il me reste un peu de temps à remplir. Donc, René, votre animateur, qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.